comme les prévoyants maîtres de chantier, protégez vos ouvrages avec Sounou Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La déprime, coup de blues, cafard, passage à vide, certains moments de l'existence peuvent être ponctués par des parenthèses particulièrement pénibles. Mais lorsque ces périodes pesantes ne sont plus épisodiques, mais deviennent constantes, lorsque l'énergie est absente dès le réveil, et à cette fatigue sont associées dévalorisation, pessimisme, que ce malaise est amplifié par des manifestations physiques, insomnie, amaigrissement, douleur, la dépression est là, une maladie psychique courante et pourtant, sa fréquence ne garantit pas pour autant son dépistage précoce. D'un côté, la dépression est banalisée dans le vocabulaire, mais de l'autre, une partie de l'opinion continue de croire que l'on peut se sortir seul sans prise en charge d'une dépression. La prise en charge, elle, peut être multiple. Consulter, s'informer, entamer une psychothérapie, recourir à des médicaments antidépresseurs dans certains cas. Pour les cas les plus sévères, une hospitalisation peut être prescrite. Traiter une dépression, c'est accepter de se faire aider pour retrouver ses marques en fonction de ses besoins, de sa personnalité, pour retrouver confiance en soi. Et nous allons le constater au cours de cette émission, ce n'est pas toujours le patient lui-même qui se reconnaît comme dépressif, mais souvent bien son entourage. Avec nous en studio, docteur Guillaume Font, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre à l'APHM Marseille, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Votre dernier ouvrage s'intitule « Je fais de ma vie un grand projet », il est publié aux éditions Flammarion. Et tout à l'heure, nous allons retrouver en ligne du Burkina Faso le professeur Haruna Ouédraogo, qui est chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouédraogo de Ouagadou. La journée internationale des infirmières, c'est dimanche, le 12 mai. Nous allons retrouver en fin d'émission Pascale Boutros. Elle est ancienne infirmière d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle a renoncé à ce travail en EHPAD. Elle va nous expliquer pourquoi. Et vos questions, vos témoignages, on les attend à notre numéro 33 84 22 75 75. Et bien sûr, sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Guillaume Font, est-ce que l'on peut parler d'une forme de paradoxe au sujet de la dépression? Une maladie courante, à tout le monde connaît ce nom, une dépression, être en dépression, être dépressif. Et pourtant, eh bien, le diagnostic n'est pas forcément posé très tôt.
Oui, il y a une confusion autour du mot dépression, parce qu'on confond la dépression et la déprime, par exemple. Et on sait que l'augmentation de la dépression est une réalité. En France, par exemple, en France métropolitaine, il y a eu deux études qui ont été conduites à 10 ans d'intervalle avec exactement la même méthode, et on a trouvé qu'il y avait 2% de la population française en plus qui souffrait de dépression. Au moment où nous parlons, c'est 10% des Français de France métropolitaine qui souffrent de dépression. Alors la dépression, c'est une maladie, il faut le rappeler, donc c'est pas un état d'esprit, donc ça veut dire qu'on n'a pas, on ne choisit pas en fait d'être dépressif, parce que ça, il y a quand même la notion, on va en reparler, de la responsabilité de la personne, alors que quand on se casse une jambe, on va pas dire à la personne qu'elle a qu'à se prendre en charge et arrêter de s'écouter. Et pour la dépression, ça va être le cas, parce que on a du mal encore à comprendre que les maladies psychiatriques sont des maladies comme les autres, en fait.
Parce qu'il y a du jugement.
Exactement. Parce que quand on ne voit pas, en fait, un stigmate de la maladie, elle n'existe pas. Et ça, c'est valable pour beaucoup de maladies, d'ailleurs. Les personnes qui ont, par exemple, des maladies intestinales ont beaucoup de mal à se faire reconnaître, à se faire comprendre, parce que ça ne se voit pas sur leur visage qu'elles ont des maladies chroniques invalidantes, comme la maladie de Crohn, par exemple. Et elles en souffrent beaucoup, parce que du coup, elles sont obligées de se justifier, d'expliquer leurs symptômes. Et la dépression, c'est pareil, en fait. Et en plus, comme ce sont des personnes qui ont déjà tendance à s'auto-dévaloriser, ça les fait souffrir encore plus de devoir se justifier auprès de leurs proches.
Alors justement, bien distinguer cette déprime d'une réelle dépression avec des symptômes tout à fait identifiés, docteur Font.
Oui, donc les deux symptômes corps de la dépression, c'est d'une part une grande tristesse et permanente et qui dure plus de 2 semaines et sans contexte associé, c'est-à-dire sans, par exemple, deuil d'une personne proche. Le deuil, c'est normal d'être dans un état entre guillemets, dépressif après un deuil. C'est une grande souffrance et donc ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc ça, c'est normal. Donc on fait bien la distinction. La dépression, elle peut survenir sans aucun facteur extérieur ou en réaction à des facteurs extérieurs, mais de façon disproportionnée. Donc il y a cette grande tristesse qui est associée souvent à une perte du goût de la vie. Donc c'est-à-dire que les activités quotidiennes n'ont plus de plaisir. Donc on demande aux personnes qu'est-ce que vous aimiez faire avant et elles n'aiment plus du tout faire la même chose. Donc par exemple, elles n'ont plus de plaisir à voir leurs proches. C'est un truc assez classique. Et il y a par exemple des parents qui peuvent culpabiliser en disant « j'ai plus de plaisir à jouer avec mon fils, avec ma fille ». Ça, c'est les deux symptômes qu'on retrouve dans quasiment toutes les dépressions. Et puis ensuite, il y a tous les autres symptômes qui vont avec et qui posent le diagnostic. Et donc là, c'est les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit, la fatigue, les idées de suicide, on va en parler aussi, hein, qui sont un signal d'alerte très fort.
Alors justement, est-ce qu'il y a un critère de temps, de durée? Il y a ces indices, on va dire, cumulés. Sur combien de temps?
Donc, il faut au moins 15 jours en continu pour pouvoir parler d'un épisode dépressif. Et ensuite, la question, c'est combien de temps ça va durer? C'est une question qu'on pose beaucoup au psychiatre. Et donc là, ça dépend. Est-ce qu'on va se traiter ou pas? Est-ce qu'on va mettre les bonnes choses en place ou pas pour le traitement? Si la dépression est traitée, ça peut disparaître en quelques semaines. Un traitement antidépresseur, par exemple, met 3 semaines à agir. Si elle n'est pas traitée, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Mais même exprimer cette volonté de s'en sortir, c'est déjà être dans une étape, on va dire, déjà vers la guérison, parce qu'il y a des personnes qui n'ont même plus la force d'imaginer qu'ils vont le sortir de cet état. Puisque vous parliez tout à l'heure de ces tentatives ou ces tentations de suicide, c'est dans ces cas-là qu'on peut arriver à ces extrémités.
Exactement. Souvent, quand les personnes viennent consulter, ça a déjà traîné depuis trop longtemps. Elles ont déjà tout essayé pour s'en sortir par elles-mêmes. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à aller voir rapidement un psychiatre. Il vaut mieux aller voir un psychiatre, finalement, entre guillemets, pour rien, pour pas grand-chose, que le psychiatre dise « bon, finalement, la situation est normale et revenez me voir si jamais ça s'aggrave », que d'attendre trop longtemps, parce que c'est vraiment ce qu'on voit en pratique. Quand les gens arrivent chez le psychiatre, ça dure depuis plusieurs mois, l'entourage est épuisé aussi, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, et la personne a déjà essayé plein de choses, et ça renforce son sentiment d'impuissance en plus, parce qu'elle a essayé plein de choses, et ça n'a pas marché.
Malgré tout, quand on endure des choses dans son quotidien, une perte d'emploi, une séparation, un divorce, on peut dire, c'est normal que j'encaisse mal le coup. Pour autant, est-ce qu'il y a des pressions?
Alors, effectivement, c'est tout à fait normal. Là où ça devient anormal, c'est dans le retentissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne peux plus assumer mon travail, si j'ai un emploi et que je suis en divorce, par exemple, et que je n'arrive plus à assumer mes tâches à mon travail, ça, c'est un signe de dépression, par exemple. C'est normal de souffrir d'une séparation, d'un divorce ou d'une perte d'emploi. Si je suis au chômage et que je commence à avoir des ruminations qui deviennent de plus en plus grandes et que je commence à développer un sentiment que je ne vais pas arriver à retrouver d'emploi, que je suis à part, bon, ce sont des sentiments qui sont normaux. Mais par contre, si ça commence à s'accompagner de troubles du sommeil, de retentissement sur l'humeur, qu'on commence à avoir des altérations des interactions avec sa famille, là, ça peut être le signe d'une dépression qui commence.
Est-ce qu'on a identifié des périodes, docteur Guillaume Font, de plus grande vulnérabilité à la dépression? Certains passage de la vie, par exemple?
Alors, il y a déjà une influence hormonale. On sait que la dépression est 3 fois plus fréquente chez les femmes. Et la période la plus à risque, c'est le postpartum, donc juste après l'accouchement, parce qu'il y a des bouleversements hormonaux dans le corps. Et ça, on sait que c'est une période à risque biologique de dépression. Ensuite, il y a toutes les grandes périodes de transition, on va dire. C'est-à-dire que quand on est obligé de déménager, de s'adapter, de commencer des nouvelles études, quand on divorce, quand on perd son emploi, quand on commence un emploi aussi parfois, ou quand on est harcelé au travail, enfin, et puis quand on passe à la retraite, qu'on n'a pas préparé sa retraite, toutes ces transitions de vie peuvent être des périodes à risque de développer une dépression.
Avec également des facteurs sociaux, on a parlé de l'emploi, on a parlé de la retraite, même si ça c'est moins négatif, on va le dire. Il y a aussi des facteurs sociaux aggravants et des, par exemple, les addictions qui peuvent encore faire empirer la situation.
Alors les addictions, c'est une relation bilatérale, c'est-à-dire que l'addiction entraîne la dépression entraîne l'addiction, donc c'est vraiment un cercle vicieux. Alors les addictions les plus fréquentes, c'est le tabac et l'alcool, et donc ce sont de faux amis en fait. Donc pour le tabac, c'est moins connu. L'alcool, c'est très connu, hein. Donc l'alcool augmente le risque de dépression et réciproquement. Donc les personnes qui ont des problèmes d'alcool sont souvent dépressives et donc utilisent l'alcool comme un anxiolytique alors qu'en fait c'est un faux amis, ça améliore sur le moment, mais ça aggrave au décours. Et par contre, c'est moins connu que le tabac augmente le risque de dépression aussi. Donc, on a actuellement 30% de fumeurs en France, et ces personnes sont plus à risque de développer une dépression parce que le tabac a un effet toxique sur le cerveau, et donc ça peut augmenter le risque de toutes les maladies mentales, et notamment de la dépression.
Est-ce que chez les plus jeunes, chez les enfants, la dépression existe? Et est-ce qu'elle se manifeste d'une façon différente par rapport à cette dépression des adultes, docteur Fond?
Alors, c'est complètement différent chez l'enfant, et c'est pour ça que c'est très compliqué à diagnostiquer, parce que l'enfant n'exprime pas ses émotions de la même façon que les adultes. Souvent, ça va passer plus par des comportements. Et puis, l'enfant ne va pas dire « je suis triste », mais en pratique, on va voir qu'il joue moins, qu'il interagit moins, qu'il commence à refaire pipi au lit, qu'il a des problèmes scolaires, qu'il y a un infléchissement scolaire, donc il y a des résultats qui chutent. Et le grand problème, c'est l'adolescence, en fait, parce que l'adolescence, c'est une période de bouleversement à tout point de vue pour l'être humain. Donc, c'est une période de bouleversement biologique, on est en train de faire sa puberté. Donc, c'est une période à risque de développer de toutes les maladies mentales. Donc, la question, c'est aussi, est-ce qu'il y a autre chose que de la dépression? On va peut-être parler du trouble bipolaire de l'humeur, de la schizophrénie, qui commence souvent par des symptômes de dépression. Et comment faire la différence entre une crise d'adolescence et une dépression qui commence? Alors ça, on me pose la question quasiment tous les jours. Et donc, c'est très difficile. Alors, ce que je recommande souvent aux parents, c'est d'aller demander aux camarades, en fait, ce qu'ils pensent de la situation de leur enfant. Parce que les camarades sont très fins, en fait, pour savoir si le jeune a changé, s'il est dans une situation qui est normale par rapport à leur tranche d'âge. Par exemple, je prends l'exemple des jeux vidéo, par exemple. Un jeune qui va commencer à être toute la journée sur les jeux vidéo, on va se poser la question, est-ce que et qui commence à devenir un peu bizarre, un peu repli sur lui, irritable. Les parents vont se poser la question, est-ce qu'il y a un problème chez mon enfant et est-ce que ça vient des jeux vidéo ou pas? Et donc là, c'est un bon moyen aussi de savoir, d'aller discuter avec les camarades pour savoir eux comment ils ressentent en fait le jeune. Est-ce qu'ils le trouvent déprimé ou pas, irritable ou pas? Est-ce qu'il a changé dans son caractère, son comportement? Comment ça se passe entre eux en fait? Est-ce qu'ils ont de bonnes relations? Ça, c'est des bons moyens de faire la différence.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a de plus en plus de dépressifs, hein, pour résumer. Est-ce que ça veut dire qu'on en parle plus ouvertement ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a vraiment plus? Est-ce que la période est plus favorable, à plus qu'une morosité, à une ambiance qui conduit, une atmosphère, une situation, docteur Fond, à la dépression?
Alors, dans la question de la dépression, il y a deux éléments. Il y a d'une part, effectivement, les contextes de vie. En fait, si la vie est plus dure, il y a potentiellement plus de dépression. Et il y a la question de la biologie. Et en fait, on a des facteurs qui augmentent la dépression, qui existent, qui ont été identifiés, mais dont on parle pas. Et par exemple, il y a l'alimentation et l'activité physique. Nous vivons dans des sociétés qui ont des conditions alimentaires qui sont en train de varier. En fait, l'industrie agroalimentaire change parce qu'elle a des objectifs dans un contexte de crise économique, par exemple, de rentabilité. Et donc, du coup, la qualité des aliments peut diminuer pour maintenir des coûts égaux. Et la diminution de la qualité des aliments va entraîner une diminution des nutriments en fait qui sont amenés au cerveau, ça va augmenter l'inflammation parce que ce sont des produits très transformés qui vont créer de l'inflammation dans le sang. Donc l'inflammation, c'est une réaction de l'organisme face à une agression. Et maintenant, il est démontré que l'inflammation augmente le risque de dépression. Donc pour répondre à votre question, c'est sûr qu'il y a une augmentation objective de la dépression. C'est pas simplement le dépistage qui a bien augmenté. On l'a vu dans l'enquête qui avait été faite en France avec exactement la même méthode entre 2005 et 2015. 10 ans d'écart, plus 2% de réponses. Donc c'est pas une question de dépistage puisqu'on avait pris des gens de la population, 15 000 personnes, et tout le monde avait été screené dans les deux cas. Donc c'était pas un problème de reporting. Et par contre, on en parle de mieux en mieux. Les gens sont de mieux en mieux informés sur les maladies psychiatriques. Donc ça c'est une réalité aussi. Mais il y a des facteurs objectifs qui expliquent l'augmentation de la dépression.
Alors, je vais reprendre en français, screener, donc passer au crible et reporting de comptabilité. J'y tiens, la francophonie, c'est important. Malgré tout, je vous repose ma question. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui plus ouvertement?
Oui, alors je pense qu'on en parle plus ouvertement, cette émission en témoigne, et ça c'est très important de rappeler qu'il n'y a pas de honte à dire j'ai une dépression. Au contraire, je pense que c'est une force de caractère. On voit d'ailleurs des personnalités parler de leur addiction à l'alcool, à la cocaïne. On a encore eu là récemment Pierre Palmade qui a témoigné sur son addiction à la cocaïne et à l'alcool. Donc, mais il n'y a pas besoin non plus d'être célèbre pour en parler. Alors après, ce que je recommande aux patients, parce qu'ils me demandent toujours, est-ce que je dois le dire? dire par exemple à mes collègues. Ça, c'est plus compliqué parce que le monde de l'entreprise est un monde qui peut être violent, jugeant, et là, la dépression peut être interprétée comme une faiblesse. Donc, il faut choisir quand même les personnes à qui on en parle, mais en tout cas, pour ses proches, je pense qu'il est important de pouvoir le dire clairement.
On va tout de suite donner la parole, Dr Guillaume Font, aux auditrices et aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Tout d'abord, une auditrice qui nous appelle de Ouaigouya au Burkina Faso, c'est Syrah. Bonjour Syrah.
Bonjour madame.
On vous écoute. Bonjour, le docteur Font est à votre écoute. Expliquez-nous exactement les raisons de votre appel. Pourquoi vous voulez parler aujourd'hui de la dépression?
Bon, je vais parler de la dépression parce que bon, je suis dépressive depuis 2008. Et bon, depuis là, je suis sous traitement. Maintenant, bon, je voulais savoir si la dépression est une folie. La première question, est-ce que la dépression aussi va de pair avec les troubles bipolaires, parce que souvent il y a des jours où je m'isole, je rentre dans ma maison, je lis, j'écoute la radio, je ne parle à personne, je ne m'énerve pas, mais je suis isolée en fait. Je veux savoir si ça va de pair avec les troubles bipolaires.
Syrah, on vous a dit il y a 11 ans donc que vous étiez dépressive, vous aviez quels symptômes?
Bon, j'avais des insomnies, je dormais pas, bon, je m'énervais, bon, c'était juste après mes examens en fait. J'étais à l'université, en deuxième année droit. Maintenant, bon, il y a eu trop de grèves et moi j'étais découragée. Je voyais l'échec venir, j'étais découragée. Je suis tombée malade de palud et de fièvre typhoïde. Et après, bon, après l'hospitalisation, ils m'ont amené chez un psychiatre.
Vous dites qu'ils m'ont amené qui? Votre famille ou un médecin généraliste vous a dit d'aller consulter un psychiatre? Votre famille.
Ma famille m'a amené chez un... Bon, comme j'étais hospitalisée, bon, c'est de l'hôpital qu'ils m'ont conduit chez le psychiatre.
Ils vous ont trouvé trop déprimée? Ça n'allait pas? Vous n'arriviez pas à remonter la pente, c'est ça?
Ça n'allait pas.
Est-ce que vous aviez même des idées sombres? Vous aviez envie, vous aviez perdu le goût de vivre?
Bon, j'avais perdu complètement le goût de vivre. Vraiment.
Et aujourd'hui, vous dites un traitement. De quoi s'agit-il précisément?
Bon, tout d'abord, au tout début du traitement, bon, en 2008, j'étais sous aldol décanoise, laroxyl comprimé et aldol comprimé. Aldol comprimé. Mais maintenant, bon, depuis 2016, je suis sous traitement chlorpromazine comprimé et puis aldol décanoase injectable tous les deux mois. Maintenant, le chlorpromazine, on prend le soir un comprimé.
Est-ce que à côté de ce traitement, on va dire chimique, vous avez trouvé quelqu'un à qui parler? Vous avez eu des entretiens, des moments de thérapie?
Bon, oui. Bon, quand je pars à la psychiatrie, ils causent avec moi un échange. Bon, à travers ça, ils m'ont demandé ce qui s'est passé, pourquoi, bon, j'étais découragée. Bon, j'étais dans trop de problèmes à l'université. Bon, ça n'allait pas. Je souffrais sur le côté financier. Il n'y avait rien. J'étais pauvre. Bon, il y a eu trop de grèves. Je suis allée en deuxième session. Je ne pouvais pas reprendre tout. Je devais reprendre toutes les matières. J'étais découragée. Bon, j'ai expliqué tout ça au docteur, au psychiatre.
Et aujourd'hui, Syrah, je vais donner la parole à Guillaume Font, au docteur Font. Je vous ai posé beaucoup de questions. J'en ai une dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux quand même?
Oui, vraiment. Aujourd'hui, je me sens mieux. Beaucoup mieux même.
Et vous avez repris un projet? Vous avez donné suite à ces études? Vous avez une activité professionnelle?
Non, bon, je suis commerçante. Je fais le commerce.
Et vous avez fondé une famille, mené un projet personnel?
Oui, je suis mariée. Bon, depuis 2013, je suis mariée. Mais je n'ai pas encore d'enfant.
Docteur Guillaume Font, il y a ces questions qu'a posées qui sont très concrètes, Syrah. Elle nous a raconté donc son expérience compliquée, douloureuse, avec beaucoup de problèmes personnels liés notamment à son projet d'études. Est-ce que la dépression, c'est de la folie? Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, Syrah demande, est-ce que la dépression, c'est une maladie mentale?
Alors, effectivement, il y a un amalgame entre folie, maladie mentale, et puis après les différents diagnostics de psychiatrie. Alors, la folie, c'est un terme qu'on n'emploie pas en médecine. Ça n'existe pas. Donc, la folie, c'était au 19e siècle. Hein, donc, on en est sorti. Justement, on a créé les diagnostics de maladie mentale pour distinguer les différentes maladies mentales. Et donc, ce qu'on appelle la folie dans le langage ordinaire, c'est la perte de contact avec la réalité. Et maintenant, on appelle ça des symptômes psychotiques. Donc, c'est plutôt dans des maladies comme effectivement la schizophrénie, le trouble bipolaire, mais on peut en trouver dans la dépression. Donc, c'est-à-dire que parfois, la dépression peut s'accompagner de symptômes qu'on appelle un peu parano, de persécution, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens nous en veulent. Comme on voit le monde en noir, et ben forcément, on est plus sensible aussi aux gens qui peuvent nous paraître malveillants, et donc ça peut créer des symptômes psychotiques. Alors, ce qui est très intéressant dans l'histoire qu'on vient d'entendre, c'est que ça a commencé par une hospitalisation pour paludisme et typhoïde. Et là, c'est l'exemple typique de l'inflammation dont je parlais, en fait. C'est donc une maladie infectieuse qui est entré dans le corps, qui a déclenché donc une réaction de l'organisme, donc une inflammation. Et ensuite, au décours, sont apparus des symptômes psychiatriques. Et ça, c'est des choses qui sont encore ignorées par beaucoup de médecins, que l'inflammation augmente le risque de troubles psychiatriques. Donc, il faut être très vigilant à ça, parce qu'en fait, il y a aussi des anti-inflammatoires qui parfois peuvent améliorer les symptômes psychiatriques. Mais là, dans cette situation, on voit que la situation est bien stabilisée et que la personne est plus...
Alors, il y a la question aussi sur, on va dire, la précision du diagnostic. Syrah s'interroge sur les troubles bipolaires. Dans ce qu'elle a décrit, c'était des symptômes dépressifs. Est-ce qu'on peut s'interroger sur ce deuxième terme, bipolaire, par exemple?
Alors, c'est une excellente question, parce qu'en fait, le point commun entre la dépression et le trouble bipolaire, c'est les épisodes de dépression. Donc, effectivement, quand on est en dépression, c'est difficile de savoir si on a un trouble bipolaire ou pas. Donc, en fait, pour répondre à cette question, il faut regarder sur la vie entière et savoir, en fait, si la personne a fait un épisode hypomaniaque ou maniaque. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de la dépression. C'est-à-dire que la personne va être exaltée, hyper sociable, sortir tout le temps, dormir très peu, mais sans aucune fatigue. Donc, c'est une augmentation de toutes les facultés, en fait, du cerveau. Le problème de cela, c'est qu'il y a un prix à payer derrière, qui est la dépression. Donc, c'est une alternance de ces deux phases. Et ça, c'est vraiment le psychiatre qui peut poser le diagnostic.
Syrah, est-ce que vous avez, comme ça, des moments, on va dire, de super excitation, de super créativité, d'envie de tout faire, de tout réussir?
Oui,
vous avez des moments comme ça où à la limite la vie n'est plus rose, mais elle est rose fuchsia, ça c'est criard, ça c'est phosphorescent tellement c'est bien.
Bon, de temps en temps, oui.
De temps en temps. Bah,
donc, pour répondre à votre question, il faut consulter un psychiatre qui va regarder précisément. En fait, il y a des échelles pour savoir si c'est dans l'ordre de la normale ou pas. Parce que donc, si ce sont des choses comme dans des contextes festifs qui durent quelques heures, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça dure sur plusieurs jours et que ça survient un peu n'importe quand, là, il faut se poser la question de savoir si c'est des accès hypomaniaques ou maniaques. Donc, il faut voir ça avec le psychiatre.
Avec le psychiatre que vous consultez, Syrah. Très bonne journée à vous au Burkina Faso. On va partir pour la RDC Mbujima, où l'on retrouve Sangor. Bonjour Sangor.
Bonjour Caroline, et bonjour à l'invité.
Bonjour.
Le docteur Font vous écoute, allez-y.
Oui. Oui, moi, quand j'ai suivi qu'il y avait l'émission devrait porter sur la dépression, je voulais poser la question au docteur. Je voulais demander la première des questions, c'est de savoir quels sont les signes qui s'accompagnent. Parce que depuis 20 ans, j'ai eu à remarquer qu'il y a eu changement dans le comportement. Par exemple, la solitude, les maux de tête, solitude, moi, la méfiance envers certaines personnes et le manque en soi. Il y a des fois comme ça, vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous-même.
C'est quelque chose qui vous concerne? Vous avez des projets que vous n'arrivez pas à faire aboutir? Vous manquez de confiance en vous-même?
Il y a des fois comme ça, je manque de confiance en moi-même, bien que je sois intelligent.
Et vous n'avez plus envie de faire des choses que vous aimiez faire auparavant?
Oui, des fois, oui, je change de temps en temps de posture. Il y a en tout cas, je veux prendre des yeux pour quelques temps, après, je change. Donc, je crois que je ne suis pas constant à prendre des décisions. Alors, je vais demander, sont des signes qui accompagnent la dépression ou c'est une autre maladie.
Vous vous interrogez aujourd'hui, en fait, Sangor, pour savoir si, oui ou non, vous souffrez d'une dépression. C'est bien cela?
Oui, ce sont les signes annonciateurs de la dépression. Parce que j'ai remarqué que c'est depuis un temps que cela commence à se manifester, sous la solitude, la méfiance envers certaines personnes et aussi le manque de confiance en moi-même. Et cela s'accompagne par les maux de tête et les insomnies de fois, et l'anorexie parfois aussi.
Donc, docteur Font, plusieurs symptômes réunis chez Sangor.
Bah oui, on a l'impression qu'on a quasiment tous les symptômes. Donc, on a quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, plusieurs années. La préférence pour la solitude qui est assez caractéristique, mais qui peut apparaître dans d'autres contextes également. C'est un point commun d'ailleurs à un peu toutes les souffrances psychiques. L'isolement, l'insomnie, la perte d'appétit, le manque de confiance en soi, tout ça, ce sont des symptômes dépressifs. Donc après, pour poser le diagnostic de dépression, il faut aller consulter, effectivement.
Est-ce que vous avez la possibilité, Sangor, à Mbujima et donc en RDC, d'aller voir un psychiatre qui pourrait vous en dire plus, vous interroger et voir avec vous exactement de quoi il retourne?
Je n'en connais aucun, mais au moins j'ai eu à partager avec un psychologue, mais je n'ai pas eu en tout cas de solution.
Vous n'avez pas eu de solution et d'aller, je ne sais pas, peut-être à l'occasion sur Kinshasa pour en rencontrer un, est-ce que c'est possible?
Il faudrait aussi peut-être vous dire la vérité que je m'ouvre aussi facilement aux gens. C'est ce qu'il faut faire parfois que je puisse y arriver. Alors je me demandais, mais c'est dû à ça. Donc quand vous êtes devant même le psychologue, là, vous sentez que vous n'avez pas à lui dire tout. Vous ne lui dites pas tout au clair.
Donc vous n'arrivez pas à vous confier réellement?
Oui. Et donc même, j'ai encore des méfiances envers le psychologue. Si vous lui dites tout, il risque parfois de dire à d'autres personnes, en fait, c'est ce qui m'accompagne. Mais au moins, je ne connais pas un psychiatre sur place. Non, il n'y en a pas.
Il n'y a pas de psychiatre à Mbujima que vous connaissiez. Bon, bah, Sangor, en tout cas, je ne sais pas ce qu'on peut vous dire quand il n'y a pas de prise en charge possible. C'est très compliqué.
Les médecins généralistes peuvent diagnostiquer et traiter les dépressions éventuellement aussi.
Aller voir un médecin dans un centre de santé, essayer de lui en parler, parler avec lui. Cette personne a une formation médicale et devrait pouvoir au moins vous écouter et éventuellement vous aider, Sangor. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Vous avez un médecin à Mbujima que vous voyez régulièrement?
Il y en a, oui.
Et vous avez la possibilité d'aller consulter?
Oui.
C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, alors Sangor. En tout cas, on vous souhaite bon courage et bonne journée à Mbujimaï. On avait une question qui rejoint un petit peu ce que vient de nous dire Sangor. Hein. C'est une question Facebook de Seydou qui est à Dakar au Sénégal. Est-ce que la solitude peut conduire à la dépression? Ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure avec vous, docteur Font. Dépression, ensemble de symptômes, la solitude seule n'est pas une dépression.
Non, parce qu'il y a des solitudes qui sont choisies. En fait, si on décide, par exemple, de faire une démarche de spiritualité, de retrait ou simplement de se reposer, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis il y a des personnes qui, en fait, ont des personnalités à préférer la solitude. Il y a des personnes qui ont toujours préféré être tout seul, sans que ce soit une maladie psychiatrique. Donc heureusement, il y a des personnes qui adorent être en pleine nature pendant des semaines tout seul, sans parler à qui que ce soit, et ils ont absolument pas de problème psychiatrique. En fait, la question c'est est-ce que ça engendre une souffrance et est-ce qu'il y a eu une rupture avec la personne? Personnalité antérieure, c'est-à-dire si la personne en fait aimait être proche de sa famille, sortir avec ses amis, etc., puis que d'un coup ça s'arrête dans un contexte de souffrance, là c'est un signe de dépression.
Alors justement, du côté de la prise en charge, on a entendu tout à l'heure une auditrice citer un certain nombre de noms d'antidépresseurs. D'ailleurs, pas mal de malades deviennent quasiment familiers avec, ils jonglent avec ces noms parfois compliqués, un petit peu bizarres. Justement, il y a toujours cette conjonction ou pas toujours entre thérapie et médicaments. Qu'est-ce qui détermine finalement qu'il va y avoir un soutien chimique et un soutien en psychothérapie?
Alors, il va y avoir deux choses, en fait. Ça va être le choix du médecin et le choix du patient. Alors, il faut rappeler que tous les patients sont pas accessibles à la psychothérapie en fonction de la sévérité de leur état. C'est-à-dire, quand on est dans une dépression très sévère, c'est très difficile de faire une psychothérapie. Parce que la psychothérapie, ça nécessite de s'analyser soi-même, de faire des efforts de concentration.
Une forme d'adhésion.
Voilà, et puis comme on vient de le voir à l'instant dans le témoignage, c'est pas toujours facile de parler en fait. Donc parfois certains patients vont préférer un traitement médicamenteux. Et parfois le traitement médicamenteux est nécessaire dans tous les cas, et notamment dans les cas urgents, notamment quand il y a des risques de suicide. Ça c'est vraiment... on sait que les traitements mettent quelques semaines à agir, mais les psychothérapies c'est encore plus long parce que c'est un travail vraiment en profondeur. Donc une psychothérapie pour avoir un ordre l'idée, c'est quand même au moins 6 mois de travail, hein, généralement. Dans les meilleurs des cas, ça peut être plus long aussi. Alors que le traitement peut agir en quelques semaines. Donc, s'il y a un risque pour la personne, pareil, s'il y a un risque de perte d'emploi, s'il y a un retentissement sur le fonctionnement de la famille, on peut aller plus vite vers le médicament.
Mais docteur Yomfou, moi j'ai une question très concrète. Quand on donne des antidépresseurs à quelqu'un qui a une tentation suicidaire, or on sait que ces antidépresseurs pris à mauvaise dose peuvent être l'outil pour se suicider, comment on fait pour protéger cette personne de ses intentions quand elle est traitée avec des antidépresseurs?
Alors, les antidépresseurs ne sont pas létaux, en fait, quelle que soit la dose. Alors, par contre, ça va créer des gros problèmes de santé. Il y aura une hospitalisation, ça va donner des problèmes sur le foie et le rein, éventuellement. Mais pour les antidépresseurs, la classe des antidépresseurs, il n'y a pas de risque. Il y a d'autres médicaments en psychiatrie qui peuvent, eux, être dangereux. Et d'ailleurs, ceux-là, justement, sont rarement prescrits aux personnes qui ont des risques de suicide.
On fait attention précisément pour éviter ce genre de problème.
Dès qu'un psychiatre prescrit un médicament, il pense à la surdose, en fait, ou il pense d'une façon générale au fait que le médicament ne soit pas pris correctement, donc il va vraiment faire attention à ce qu'il prescrit.
On va partir tout de suite, si vous le voulez bien, docteur Guillaume Font, on va partir pour le Burkina Faso.
RFI.
Où l'on vous retrouve, professeur Haruna Ouedraogo, bonjour.
Oui, bonjour, madame Paré.
Vous êtes chef de service de psychiatrie au CHU Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Est-ce que vous avez des chiffres, professeur, sur la fréquence, la prévalence de la dépression au Burkina?
Oui, je vous remercie. Ce taux de prévalence est estimé à 11,6% dans la population générale au Burkina Faso, selon les résultats d'une enquête que nous avons réalisée en 2015.
Ça veut dire qu'on n'est pas très loin de ce qu'on connaît en France, par exemple. On parlait tout à l'heure, justement, pour le cas de la France, d'une augmentation des cas de dépression diagnostiqués. Professeur Ouedraogo, est-ce que c'est quelque chose, une tendance, que vous rencontrez également au Burkina?
Malheureusement, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas, en fait, les mêmes types de données que la France, où il y a eu des études qui ont été menées à intervalles réguliers. Nous sommes dans notre première enquête en 2015. Donc, on pense que d'ici 5 ans, nous serons en mesure de reproduire la même enquête. Et puis bon, ça nous éclairera un peu sur les tendances d'évolution du phénomène.
Pour avoir des éléments de comparaison, en tout cas, est-ce que vous savez si ou non, comme c'est le cas en Europe et en France, les femmes sont plus touchées que les hommes?
Oui, affirmatif. Nous avons, dans le cadre justement de cette enquête, révélé qu'il y avait 14,06% de femmes contre 8,30% d'hommes. Donc vous voyez que un peu partout, ce sont les femmes qui sont en fait les plus touchées par la dépression.
Est-ce que vous constatez en général, c'est que qui décide d'aller consulter? Est-ce que c'est le patient, la personne qui est en souffrance, ou est-ce que c'est plutôt son entourage qui le pousse et qui l'accompagne?
C'est quand même rarement le patient, hein, parce que c'est surtout l'entourage qui constate le changement de comportement. Et le plus souvent, le patient lui-même souffre, mais n'est pas en état de prendre une décision pour aller demander la consultation. Donc ce qui arrive souvent, c'est plutôt l'entourage familial qui, au vu du changement constaté, donc sollicite la consultation. Et parfois, auprès des médecins somaticiens, j'allais dire, parce que le plus souvent, ils ne réduisent pas forcément un problème psychiatrique.
Et du côté des perceptions nationales, locales, justement, de la perception culturelle de la maladie, comment ça se passe? Est-ce que quand on dit dépression, ça a un sens pour vos patients, ou est-ce qu'il faut l'expliquer et des fois démentir certaines croyances, par exemple traditionnelles, professeur Ouedraogo?
Oui, c'est extrêmement compliqué parce que dès lors que la personne présente en fait des symptômes qui peuvent être attachés à la maladie mentale, l'interprétation dans l'imaginaire populaire, c'est de se dire effectivement il y a une possibilité d'attaque par les génies ou par le fait d'action maléfique d'une tierce personne. Mais quand il y a la prédominance des symptômes somatiques, le fait souvent que nous constatons, c'est que ils vont
les personnes vont plutôt consulter en médecine, ils vont consulter peut-être d'autres spécialités en fonction des symptômes d'appel. Donc dans ce cas, on n'est pas dans le registre de la maladie mentale, mais on est dans le registre donc d'une plainte somatique qui nécessite donc d'être diagnostiquée et que peut-être c'est au fil du temps qu'on se rend compte qu'il s'agit en fait de troubles dépressifs. Donc c'est vraiment c'est variable, en fait, j'allais dire.
Et je voulais vous faire réagir, professeur, à un message Facebook d'un de vos compatriotes, du Burkina, de Ouaga. Il s'appelle Ibrahim et il nous a écrit ça. La dépression, c'est une maladie de bourgeois. Elle n'a pas de nom dans les langues africaines. Elle existe en Afrique chez les étrangers européens seulement. Donc beaucoup de jugements, dans ce message. Ce sont des mesquineries de gens gâtés par la vie. Les pauvres, eux, se remettent très vite sur pied. Ils ne savent pas ce que l'on appelle la dépression. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur ?
En fait, c'est une idée qui a longtemps été véhiculée, mais aujourd'hui, la réalité est que ça ne correspond absolument à rien du tout. La réalité, c'est que nous rencontrons des patients déprimés, que ce soit au sein de la population générale à travers l'enquête, le résultat de l'enquête dont je viens de parler,
oui,
ou que ce soit dans le cadre des activités cliniques. Alors, pour votre information et celle des auditeurs, dans nos statistiques hospitalières, en règle, la dépression vient en troisième position, après les troubles du spectre de la schizophrénie et les troubles psychotiques aigus. Donc vous voyez que c'est quand même pas aussi négligeable et on ne peut pas dire que c'est un phénomène qui est absent dans le contexte africain. Ce n'est pas vrai aujourd'hui en 2019.
Voilà ce que vous pouvez expliquer à Ibrahim qui a beaucoup d'idées reçues, en tout cas sur les maladies mentales, et donc qu'on a démenti. Un dernier point, professeur Haruna Ouedraogo, est-ce qu'il y a des recherches engagées de votre côté, du côté de cette prise en charge de la dépression ?
Oui, alors dans le domaine de la recherche, nous essayons un peu de documenter les particularités donc de ce trouble, que ce soit en ce qui concerne les manifestations, que ce soit en ce qui concerne les stratégies en fait qui sont mises en place pour pouvoir traiter efficacement. Et nous assurons aussi, voyez, un certain nombre de suivis de l'évolution du phénomène à travers donc les enquêtes, les recherches du moins qui sont effectuées en population clinique. Et tout cela aussi, en fait, permet non seulement d'affirmer que c'est un problème qui existe, mais surtout aussi que de plus en plus nous avons affaire à une population qui va déprimer, à raison de la multiplicité des facteurs de stress, à raison également d'un certain nombre de problèmes, de difficultés, des maladies organiques qui peuvent aussi, à un moment donné, aussi comporter justement ces aspects dépressifs dans le cours évolutif de ces maladies-là. Donc c'est dire que c'est une préoccupation, c'est un problème réel et face auquel il faut bien entendu développer des stratégies de prise en charge, des formations du personnel, des formations des intervenants pour qu'ils puissent diagnostiquer et qu'ils puissent également traiter ces troubles.
Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant, malgré quelques problèmes au niveau de la liaison téléphonique. J'espère qu'on a bien compris l'ensemble de votre développement, professeur Haruna Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes également président de la société burkinabé de santé mentale.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
On vous retrouve, docteur Guillaume Font, dernière partie de cet échange consacré à la santé mentale, à la dépression. Aujourd'hui, on parlait des recherches du côté de Ouagadougou, justement, sur cette prise en charge de la dépression. De votre côté, vous êtes enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Ce sont quoi, justement, les pistes sur lesquelles vous travaillez ?
Alors, on est en train de travailler sur plusieurs axes. Donc, on travaille beaucoup sur la santé mentale publique, donc c'est-à-dire tous les facteurs d'environnement qui vont influencer la dépression. Donc, moi, à titre personnel, je travaille à la fois sur la psychonutrition, l'activité physique et leur impact sur la dépression. Donc, pour rappel, dans les grandes études qui viennent d'être publiées en 2018, les derniers grands résultats, le régime alimentaire influence la dépression. Donc, le régime méditerranéen protège de la dépression. Maintenant, c'est archi validé, c'est scientifique, 50 études, une méta-analyse publiée dans Molecular Psychiatry, une grande revue.
Donc le régime méditerranéen, pour rappeler, c'est la consommation de fruits, de légumes produits localement,
c'est ça,
huile d'olive,
non transformée, huile d'olive,
produits de proximité, voilà. Pas trop de viande.
Voilà, pas de viande rouge et plutôt de la viande blanche en petite quantité, du poisson, pas de produits de lait de vache, plutôt de chèvre et de brebis, parce que la caséine de lait de vache est inflammatoire, peu de gluten du coup aussi.
Ce qu'on appelle le régime crétois également.
Exactement, c'est ça. Et donc c'était en fait un régime qui avait été décrit dans les années 40-50 dans plusieurs pays, en Espagne, en Italie et en Crète, et on avait constaté que ces personnes vivaient plus longtemps et en meilleure santé mentale, et donc maintenant c'est démontré. Donc ça c'est une chose très importante. Les compléments alimentaires, donc les oméga-3, la vitamine D, la vitamine B9 ont montré une efficacité dans la dépression. Et puis donc dans les autres pistes de recherche, il y a tout ce qui est donc le contexte d'environnement de stress dont on a parlé. Donc nous on est très concernés par la santé au travail en fait. Le travail comme facteur de stress, de dépression, le burn-out, là, le harcèlement au travail aussi, qui peut être des facteurs très importants. Puis alors au niveau plus de la recherche, on va vraiment regarder maintenant les molécules de l'inflammation, parce qu'on sait qu'il y a un système immunitaire dans le cerveau et qu'en fait la neuro-inflammation, donc l'inflammation du cerveau, va augmenter le risque de dépression. Et donc ça, c'est pour développer de nouveaux traitements plus efficaces.
Et du côté des psychothérapies, éventuellement des pistes, des axes qui font leur preuve avec, vous disiez tout à l'heure, le contexte de stress, notamment la méditation, et puis se mettre dans certains contextes plus positifs pour aller mieux.
Donc en fait, on a assisté à l'évolution des psychothérapies. Alors on a un peu de retard en France parce qu'on est quand même beaucoup resté sur la psychanalyse pendant longtemps, mais on est en train de rattraper ce retard. Et donc actuellement, les psychothérapies qui montrent la meilleure efficacité dans la dépression se basent d'une part sur la méditation qui a démontré la prévention de la rechute. Donc il faut pas la faire quand on est en phase aiguë de dépression, ça c'est très important, parce que la méditation c'est quand même contempler ses pensées. Donc quand on va pas bien, ça peut être vraiment très douloureux, on s'enfonce tout à fait. Donc là il faut attendre d'être sorti de la dépression. Par contre après c'est très efficace pour prévenir la rechute. Et puis on a donc des nouvelles thérapies qui sont basées sur le travail sur les valeurs de l'individu, que l'individu identifie mieux ce qui donne du sens pour lui dans sa vie et remettre en place des actions valorisées dans sa vie.
J'ai une toute dernière question. Comment un patient sait-il si il en a fini avec sa dépression et éventuellement quand est-ce qu'il décide d'arrêter ce traitement ?
Alors, ça se décide avec son médecin, c'est en fonction de l'histoire de chacun, c'est-à-dire que ça dépend du nombre d'épisodes dépressifs qu'il a fait, ça, de la durée. Donc ça, il y a des critères qui sont très bien validés pour la durée du traitement, à quel moment on l'arrête. On n'arrête pas le traitement dès qu'on va mieux, ça c'est très important, hein. Il faut qu'on le continue au moins 6 mois après pour éviter la rechute, parce qu'on sait que le risque de rechute est plus important dans les 6 mois. Et puis, malheureusement, j'ai envie de dire, personne n'est à l'abri d'un épisode dépressif, qu'on en ait fait ou pas. Donc il faut toujours être vigilant, et justement, le fait d'avoir fait une dépression, c'est aussi un cadeau pour savoir ce qu'il faut faire pour éviter d'en refaire. Donc les personnes qui ont fait une dépression sont beaucoup plus sensibles à leur mode de vie, à leur alimentation, à leur activité physique, leur relation avec leurs proches. C'est le meilleur moyen de ne pas rechuter.
Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Docteur Guillaume Font, je rappelle que vous êtes psychiatre à la PHM Marseille, enseignant-chercheur ex-Marseille Université. Et je rappelle le titre de votre dernier livre que vous avez signé aux éditions Flammarion, « Je fais de ma vie un grand projet ».
Priorité Santé sur RFI.
12 mai, c'est dimanche, c'est la journée internationale des infirmières. Et nous allons en parler tout de suite dans Priorité Santé avec vous, Pascal Boutrose, bonjour.
Bonjour.
Il y a 6 mois, vous avez renoncé à votre travail d'infirmière en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'ouest de la France, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, oui.
Et donc, vous avez travaillé pendant près de 15 ans auprès de personnes âgées. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi vous allez renoncer. Mais d'abord, j'aimerais que vous me disiez quelle a été la particularité de ce travail d'infirmière en gérontologie, donc travailler avec des personnes âgées. Qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que ça vous a appris ?
Eh bien, travaillant en EHPAD, c'est très formateur. Moi, je venais de la PHP. Je travaillais beaucoup en chirurgie. Enfin, les 15 premières années, c'était plutôt de la chirurgie et de la réanimation. Donc, arriver en établissement pour personnes âgées, c'est un gros changement en termes d'activité. Et on est amené en EHPAD à avoir un petit peu plus de temps, malgré tout, pour le patient.
Et malgré tout, vous avez décidé d'arrêter, Pascal Boutrose. Pourquoi ?
Alors... C'est un vaste programme, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour expliquer tout ça, mais on arrive dans un établissement où on prend en charge des personnes qui sont vulnérables, contrairement à un service aigu où les gens n'ont pas forcément de problèmes cognitifs. Et on est amené à travailler avec peu de moyens. ça ne va pas être nouveau, c'est assez d'actualité. Et surtout des professionnels qui ne sont pas forcément formés et qui sont là un petit peu parce qu'ils ont besoin de travailler ou parce qu'ils habitent à côté. J'avais des professionnels, des collègues agents hospitaliers qui étaient, par exemple, qui avaient travaillé en usine avant de venir dans l'établissement.
15 années d'expérience, est-ce que vous avez vu la situation, on va dire, se dégrader, se détériorer?
Oui. Avec l'allongement de la durée de vie, on a une population qui arrive en maison de retraite dans des états de démence avancée ou au moins polypathologique, donc beaucoup plus dépendante. Et jusqu'à présent, l'organisation des soins et surtout le recrutement était fait pour accompagner des personnes dans comme c'était étiqueté, un lieu de vie. Et maintenant, l'EHPAD n'est plus un lieu de vie, mais vraiment un lieu de soins, et on revient un petit peu en arrière en termes d'exigence.
Alors, vous avez dit, vous avez travaillé pour l'hôpital public à Paris, vous avez travaillé en EHPAD, et bientôt, dans quelques mois, vous allez devenir infirmière libérale, on va dire que vous avez touché un petit peu à tout. Justement, à travers ces différents changements, vous illustrez en fait la pluralité de ce métier d'infirmière. Ce métier,
la recherche, surtout la recherche.
Et la recherche, et vous y tenez absolument à ce métier d'infirmière. Vous ne renoncerez pas malgré tous ces changements?
Alors, j'y ai pensé. Comme beaucoup, je pense, j'y ai pensé, parce qu'on se bat un petit peu contre des moulins à vent si on veut garder un minimum d'exigence en termes de qualité de soins. Donc on se bat un petit peu contre les directions, ou même contre ses propres collègues parfois. Mais c'est un métier qui est tellement enrichissant, moi j'ai pas envie d'arrêter. Je suis un peu têtue, mais voilà, j'ai pensé, mais je me suis dit qu'il fallait que je trouve un endroit où je puisse travailler correctement.
Est-ce que vous avez continué à apprendre tout au long de ces années d'expérience?
Bah oui, au contraire, on a beaucoup, beaucoup. J'ai changé de spécialité, donc à chaque fois il faut recommencer. On demande aux soignants d'être polyvalents, on peut les balancer d'un service à l'autre, mais c'est pas vrai, on peut pas être efficace quand on est dans le métier, on peut pas être efficace dans tous les services. Alors, on connaîtra les gestes d'urgence, donc dans le détail, dans l'observation, la clinique, on pourra pas être efficace vraiment et compétent vraiment dans tous les services. Donc la formation, le soin évolue, donc il faut se former de plus en plus. Moi, j'ai pu me former au soin palliatif parce que j'étais en géronto, mais soin palliatif, les méthodes d'accompagnement non médicamenteuses de la démence, nos élèves, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Bon, on connaît, j'allais dire, les méthodes, les solutions, mais le problème, c'est les moyens.
Et justement,
on a du mal à appliquer tout ça.
On perçoit ce mélange de désillusion et de motivation. Malgré tout, est-ce que vous donneriez conseil à un jeune bachelier, le bac c'est dans quelques semaines, à un jeune bachelier de s'inscrire en école d'infirmière, oui ou non?
Maintenant, avec Parcoursup.
C'est déjà fait, l'inscription est déjà faite.
Cette année. J'allais dire, l'accès est facilité, il n'y a plus de concours. Maintenant, je mettrai des petites mises en garde, je leur dirai qu'il faut bien réfléchir, qu'il faut toujours exiger. Si on ne veut pas baisser son niveau d'exigence en termes de qualité, encore une fois, il faut vraiment être vigilant, ne pas se laisser faire. toujours avoir l'esprit critique de ce qu'on fait, ne pas se laisser influencer ni par les directions, ni par les autres collègues. Mais c'est vraiment un milieu où on a une notion de responsabilité.
Garder le sens du soin. Merci beaucoup, Pascal Boutros, d'avoir répondu à nos questions. Bonne route pour votre nouvel engagement. Installation comme infirmière libérale. Vous avez choisi la Corse, l'île de beauté, et avec 48 heures d'avance. Très bonne journée internationale des infirmières. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est Toussa Maquio, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurie Plisson. Lundi, nous allons parler de l'avortement, un droit en France. Mais est-ce que ce droit encadré est menacé? Si vous avez des questions, des témoignages au sujet de l'IVG, on attend vos messages sur notre page Facebook et également vos appels 33 1 84 22 75 75. On se retrouve lundi.
C'était
Écoutez Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les prévoyants maîtres de chantier, profitez d'une assurance tout risque chantier. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.